Chapitre 7 De toute robe. Madame Beaudésime travaillait dans son salon. Elle n'en pouvait souffrir le meuble Louis-Philippe, ni les scènes historiques pendues au mur, ni le tapis où chevauchait Abdelkader, toutes choses introduites dans le ménage par M. Beaudésime. Mais elle avait pris sa chambre en horreur, depuis ce jour où Vitalis et elle s'y étaient maltraités, si fort que leur rupture en était jusqu'ici restée entière. Le lit, surtout, lui rappelait trop un mari qu'elle avait à subir, toutefois qu'il n'avait pas bu jusqu'à la crapule, et même alors par occasion, et l'amant qu'elle n'espérait plus y tenir couché sous son impérieuse caresse. Elle venait de causer un peu chez Mademoiselle de la Hourque. Outre le divertissement d'entendre la buraliste conter les mystères de son berceau ou son infructueuse idylle avec M. Lubriquet, elle avait voulu se rendre compte si sa folie de l'autre jour avait fait du bruit. Mais rien dans l'accueil ou les paroles du petit cercle qui faisait conversation à l'agneau pascal ce jour-là ne le pouvait faire croire. Les Laharan, sans doute, avaient gardé leur promesse, et Detsin, qui aimait sa maîtresse, tenu sa langue jusqu'à ce jour. C'est beaucoup, en pareil cas, de gagner du temps. Un scandale, s'il a vieilli, oh, ce n'est plus que de la poudre mouillée. Le bizarre, c'est qu'elle craignait encore plus les bavardages de Vitalis. Il lui semblait que ses propres fureurs, tant de larmes et cette scène indécente envers les Laharan, tout cela composait une trop belle histoire, trop flatteuse à la vanité d'un jeune homme, pour qu'il s'en contint avec ses risoles, avec d'autres peut-être, qui à d'autres le pourraient dire. Madame Beaudésime agitait ses soucis en songeant aux décrits publics et reprisait du linge. La corbeille en papier de couleur où fuisaient ses mains, calme, reposait sur une fumeuse dont la tapisserie au petit point figurait un chinois qui fume l'opium dans une pipe turque. Et tout ce qu'elle venait de réparer, elle le rangeait à son côté pour ne pas le confondre sur le velours vieux et vert du canapé. Il eût fallu voir tenir à bout de ses bras repliés pour l'interroger à contre-fenêtre quelques pièces de la dépouille conjugale que le jour pénétrait une minute, trahissant d'autres reprises en carré ou bien qu'il gorgeait d'un œuf d'ivoire tour à tour ses propres bas vieillissants. Bien qu'elle gardât beaucoup de soin aux travaux du ménage, soit qu'ils lui fussent en plaisir, en vérité ou plutôt une espèce de mortification, aujourd'hui elle y paraissait distraite. Tout ce scandale qu'elle appréhendait, qui pouvait éclater autour d'elle, remplissait son âme de trouble. Oh, c'était beaucoup moins le spectre d'un mari vengeur qui l'inquiétait, car elle avait sujet de croire que le sien faisait un peu plus que soupçonner sa liaison, et, s'il ne le montrait point, que c'était bien un peu par indifférence, mais surtout pour d'autres motifs. En un mot, que sa dot compromise, sinon anéantie par les spéculations de Beaudésime, n'était pas étrangère à ce comble d'aveuglement. Comment pouvait-il ne pas voir, en effet? Vitalis n'avait-il pas été toujours de la pire légèreté? Elle-même, plus imprudente encore que Vitalis, ne s'était-il pas trahi 100 fois? Ah, songea-t-elle, c'est vrai que l'argent est au fond de tout. Et même les choses sales, il les salit. Somme toute, en tenant un peu Vitalis pour une espèce de courtisane, elle estimait son mari moins encore. Car Basilida, à être infidèle, n'en gardait pas moins le goût de la netteté en toute chose, et en jugeait durement le plus petit manque. Aussi bien ne s'épargnait-elle pas non plus elle-même. Mais que suis-je donc, se disait-elle, pour tant mépriser, moi qui trompe mon mari jusque dans son lit, et le monde, sinon Dieu, par les plus criminels Pâques, Fallait-il salir tant de choses pour n'avoir même plus ce misérable bonheur de ma chair, un peu d'amour que m'accordait Vitalis, qu'une autre me vole? Le malheur de Madame Baudésime, si pieuse, c'est que la religion, où son mal cherche à se distraire, lui empoisonne ce même remède qu'elle lui prépare. À mesure que les sacrements apparaissent à Basilida comme le baume suprême, elle se rappelle d'en avoir reçu qu'une parodie. Plus elle veut s'y abîmer, plus elle s'y découvre sacrilège, adultère à Dieu plus encore qu'au mariage. Dans ce réseau où elle se débat et va périr comme un brillant poisson traîné vers la plage, que la main puissante la saura prendre aux ouïes pour la replonger dans les eaux respirables et profondes, ce médiocre curé Cazoubiel, moins tolérant encore qu'aveugle, confesseur sans doctrine et sans amour, lui en semblait le plus incapable. Une fois de plus, la figure du père Nicole passa dans sa pensée. Celui-là, peut-être, était digne de l'entendre, et si jamais elle s'agenouillait devant lui, ce ne serait plus pour mentir. Toute sa plaie, quand il devrait y mettre les fers, elle la ferait voir nue. « Ma chère amie, » dit M. Bonésime en entrant, « oh, je t'amène Sabine de Chartite, qui était en train de déranger les filles pour savoir si on pouvait te voir. » J'ai dit que oui et reprisant même, ce qui est un bon exemple pour les jeunes filles. « D'un bon exemple pour ne pas se marier, » répondit la notairesse en embrassant Guiche. Celle-ci haussa un peu les épaules, tandis qu'elle regardait assez tristement Basilida. Elle l'aimait beaucoup. Elle aimait Vitalis aussi, à ce qui lui semblait depuis l'autre jour, et tout cela était difficile à débrouiller. Les sentiments de Madame Baudécime n'étaient guère moins confus. Elle pressentait le sacrifice qu'il lui faudrait faire un jour, et malgré cela, quelque chose, rien qu'avoir Guiche, empêchait qu'elle ne la haït. Oh, « j'étais tout juste, » reprit le notaire, « à fumer ma pipe sous la baronne de devant, et je regardais la place où ce pauvre Firmin. » « Je t'en prie, » interrompit sa femme. Guiche, de son côté, avait pâli. « C'est vrai que vous étiez aux premières loges, toutes les deux. Et Vitalis, avait-elle assez peur, Guiche, quand elle s'est précipitée en bas ?» Il ajouta d'un air paisible. Elle parlait à tort et à travers. À ce dernier coup, dont elle sentit Basilida viser à travers elle, la jeune fille fit une contre-attaque. « Oh, ce n'est pas la première fois ce jour-là que j'ai eu peur, » dit-elle. « Imaginez-vous, madame, que le matin... » Le notaire prévit des allusions à la scène du bois. « Bon, dit-il, ce matin confidentiel, puis j'ai du travail. Mais ce fainéant de Vitalis est à l'étude, je vais vous l'envoyer, si vous voulez. »« Oh, pour aujourd'hui, » fit Sabine, « nous vous le laissons, n'est-ce pas, madame ?» C'est le premier jour qu'elle se trouvait seule depuis l'émeute. Ne s'était rencontrée qu'un après-midi à Castabala, une autre fois sous le porche de l'église, mais toujours en compagnie. Et ces trois semaines qui avaient passé leur permettaient de se voir avec plus de calme. « Il me fait frémir, M. Baudésime, avec cet assassinat, » reprit-elle. « Je la regardais dans la place, dans la glace devenir blême, vers pom-pom mûr, » dit M. de Cérisole. « Il vous plaît beaucoup, Guiche, M. de Cérisole. »« Assurément. Et voilà tout. » « Oh, mon Dieu, oui, n'est-ce pas assez ? Je me l'imagine comme un bon camarade, un camarade qu'on aimerait beaucoup. Ça ferait plaisir de l'avoir sous la main. » Elle rabaissa sur ses yeux ses paupières en forme de feuilles et ajouta, « Je ne sais pas, moi, de l'embrasser, de prendre son tome devant lui, Tandis qu'avec, je veux dire devant un homme que j'aimerais dans mon cœur, il me semblerait sans cesse que je ne suis pas assez vêtu. Oh, soupira la notaresse, cela ne s'invente point. Pouf, d'ailleurs il se soucie de moi comme un cocher d'une paire de souques. C'est Clarisse qu'il courtise. Oui, oh, courtise n'est pas trop fort, et toutes les fois que je vois la tête de Wolfgang, je me dis combien je voudrais que ça fût vrai, certaines choses. Mais Quiche, enfin, vous êtes folle. Je vous demande pardon, dit la jeune fille. Vous êtes si grave, vous, madame. Petite peste, répliqua la notaresse avec son demi-sourire. Venez ici me demander pardon de vous moquer de moi. Vous le savez bien si je suis folle moi aussi quand je m'y mets, et vous ne savez pas tout. Cependant, elle avait posé dans la corbeille tout le linge qui était à sa droite et fait une place à la jeune fille qui, de bonne grâce, vint la prendre. Je vous demande pardon de tout mon cœur, dit-elle, si je vous ai manqué, madame. Je vous aime tant, c'est vrai, oui. Certes, ses yeux gris-bleus, couleur d'avril, qu'elle semblait ouvrir jusqu'au fond sur Basilida, comme pour en répandre les plus secrètes de ses pensées, ne trahissait que tendresse. Enfant, reprit madame Bonésime, il ne faut pas galvauder ces grands mots-là. Vous êtes mon amie, ma petite amie, j'en suis très fier, mais enfin, vous ne rêvez pas de moi, je pense quand vous dormez. Mais quelquefois, répondit la jeune fille en se serrant contre Basilida. Allez, ne dites pas de folie. Et quant à Cérizol, je le savais déjà, que ce n'est pas lui la pensée de votre pensée. Pourquoi, on pourrait bien avoir du goût pour plusieurs personnes. Mais pas de l'amour, Guiche. Eh bien, moi, je me sens un cœur à en avoir pour le monde entier. Elle avait repris son masque perfide aux yeux obliques pour prononcer cela. Et madame Bonésime, en se penchant vers elle, dit avec tristesse « Mais c'est celui qu'on aime qui est le monde entier. » Puis elle l'embrassa. « Comme c'est ennuyeux, toutes ces choses, » murmura Guiche. « Oh, je voudrais redevenir petite fille. » Comme au temps où j'aimais à sentir de la peine pour être prise sur les genoux. Ce n'est pas encore si loin, dit madame Bonésime, en la prenant dans ses bras énergiques. Alors, ajouta-t-elle plus bas, vous ne voulez pas que je vous dise son nom? Mais si je l'aime, vous me haïrez, j'en suis sûr. La jeune femme, malgré elle, soupira. Depuis les premiers mots de Guiche, elle y était presque résolue, mais à quel prix ? Non, répondit-elle, j'ai beaucoup réfléchi et prié depuis l'autre jour, et cette affreuse scène. Pardonnez-la-moi, Sabine, et je crois que je vous la laisserai prendre. D'ailleurs, ajouta-t-elle en s'efforçant de sourire, vous le prendriez bien sans moi. Elle songea un peu. Tout de même, j'aurais pu vous causer de l'embarras, si Dieu enfin ne m'avait autrement incliné. Ah ! S'écria imprudemment Sabine, je ne le prierai jamais s'il doit m'empêcher d'aimer ce que j'aime. Basilida devint plus pâle. Est-ce que vous seriez venu pour rire de mes chagrins ? Demanda-t-elle. Un instant, elle la serra comme pour la rompre. Mais Guiche, pareil à une enfant menacée, ne savait se défendre qu'en tendant sa bouche. « Non, dit Basilida, vous m'avez fait mal. Il y a des moments où je voudrais vous en faire davantage. Oui, et vous, pourquoi l'aimez-vous ? Mais je ne l'aimais pas. C'est depuis que je vous ai vu, lui donner un baiser. » « Mais lui, Guiche, non, il ne vous aimera pas. »« Je ne sais pas, » dit la fillette tristement. « Ah, mais que si vous le savez, sauterelle, je parie que nous voyons déjà en mariée. Mon Dieu, dire que j'aimerais à vous habiller moi-même ce matin-là, et voir tout ce blanc, toute cette dentelle vous mousser sur la peau, comme un peu de champagne, là et là. » Guiche chatouillé se mit à rire en fermant les yeux. « Oui, dit-elle, comme du champagne. » Mais Basilida, par la réaction la plus imprévue, à l'idée que cette chair et cette mousse se seraient à Vitalis, avait de nouveau pâli, tandis que de sa lèvre relevée, elle laissait voir ses dents comme fait une chienne qui voudrait mordre et qui cache sa fureur. « Laissez-moi, dit-elle enfin d'une voix basse et changée, en repoussant la jeune fille. Je vous ferai dire ma réponse par Vitalis, car c'est une réponse que vous étiez venu chercher, n'est-ce pas ?» Guiche, qui la regarda, eut peur. « Eh bien, bonsoir, madame, dit-elle enfin. Je reviendrai, si vous voulez. » « Pas tout de suite, Guiche, non, pas tout de suite. Je vous en prie, il faut me donner un peu de temps. » Là même, devant le canapé, Basilida tomba à genoux, la tête dans ses mains, et ne se releva que résolue à s'abandonner au père Nicole. Dès le lendemain, en effet, elle alla le voir. Le jésuite demeurait dans une de ces maisons dont il y a plusieurs à Rimacourt, qui d'un côté donne sur Louse. De celle-ci, et qui appartenait à son père, il s'occupait que le premier étage et le comble. Au rez-de-chaussée, c'étaient les librairies Trébuc, famille effacée où l'on pensait peu, mais bien, jusqu'à ne vouloir pas faire venir Salambo, parce qu'il est à l'index, par décret de juin 64, ainsi que Madame Bovary, explique en essuyant son lorgnon, ce libraire long et chauve à la jeune femme qui commandait ce roman rétrospectif. « D'ailleurs, ma fille va vous faire voir. Odile, l'index de 1904 » ajouta-t-il en interpellant cette adolescente cornée dans le dos une tresse couleur de paille et qui va présenter le volume tout ouvert aux pages 132-133. Vous me tracassez avec votre prospectus, répliqua la cliente, une cocotte de Toulouse. Croyez-vous que c'est en se pendant au bout de son cordeau à sonnette que votre demoiselle pêchera un mari à la ligne ? Sur quoi elle s'en fut, triomphante et brune. La maison Nicole était un peu éloignée de ce bouquet d'ormes aujourd'hui jaunissant où Vitalis et Sabine avaient causé un soir. Par derrière, elle regardait sur l'autre rive les toits inégaux de l'Escar. C'est là que donnait le cabinet du jésuite, par deux fenêtres où Madame Pétrarque s'intéressait tant qu'il avait fallu mettre des stores inclinés de son côté, et l'on avait marqué son désappointement, sa désapprobation, en diverses lettres anonymes dont l'évêché avait reçu la meilleure part. C'est là que le père Nicole reçut Madame Baudésime et désormais à l'église. Mais il n'accepta point tout de suite la charge de cette âme aussi violente et trouble qu'un torrent après l'orage. Il savait aussi que dans le troupeau peu nombreux de M. Cassoubiel, Madame Baudésime était une ouaille de qualité et dont la désertion lui serait sensible. Or le jésuite se souciait peu d'entrer en différend avec le curé de Sainte-Marthe, qui ne lui pouvait faire du bien, mais quelque mal, et surtout créer de ces menus embarras dont les hommes de réflexion se font un épouvantail. Son devoir, toutefois, l'empêcha de se dérober trop longtemps à Madame Baudésime, et il la reçut en confession. Mais dès le surlendemain, M. Cassoubiel, qui le rencontra par hasard, évita son salut. Et Basilida était à peine mieux satisfaite que lui, s'y étant heurtée à plus de rigueur qu'elle n'avait craint dans ses pires désespoirs. Une fillette, tout de même, qui s'est tachée d'encre les mains, s'indigne qu'un peu d'eau suffise pas à les rendre nettes. c'est qu'elle était femme et, jusqu'aux plus profonds abîmes de sa piété, gardait un peu de cette frivolité incurable qui empêche de regarder ses fautes en face, de les peser sur de justes balances. Que devint-elle quand le père Nicole, bien loin de la moins absoudre tout de suite, déclara qu'il devait retenir le cas de ces eucharistes sacrilèges pour en référer au plus haut lieu? N'était-ce pas pour Basilida sa pudeur deux fois découverte? Il n'en en fallait pas moins ronger son frein jusqu'à la Toussaint prochaine, que le jésuite lui fait espérer qu'il la laisserait approcher les sacrements, en ayant alors reçu les pouvoirs. Si le père Nicole n'avait été que médiocrement surpris à voir Madame Modestine recourir à lui, il ne le fut pas beaucoup davantage de recevoir la visite du docteur Emma Delon, médecin de Paris à demi notoire, qui l'été faisait à Ribamour la clientèle étrangère, comme disent ces messieurs dans leur jardin, et semblait depuis peu attaché à la personne de M. Lescarra, dont la santé pour cela ne cessait point d'empirer. L'homme de l'art exposa que son malade, il en parlait comme de son propre, démarquait pour se remettre avec le ciel, quoique cela certes fût prématuré, s'il le pouvait jamais être, l'appel du père Nicole, de qui l'éloge n'était plus à faire. Lui-même, M. Emma Delon, se sentait heureux d'avoir, dans l'humble mesure de ses forces, servi à ramener une telle ouaille vers l'église, que M. Lesca, du reste, n'avait jamais quittée. Le jésuite, pour faire court, demanda s'il s'agissait des derniers sacrements. « Les derniers sacrements, répondit le docteur, du même ton que si on lui eût parlé d'un mystère de l'alchimiste, les derniers, enfin, c'est-à-dire se confesser, je pense. Si 4 heures demain conviendraient, bon, tout à fait, et M. Madelon s'en fut. Le lendemain matin, le père Nicole reçut une lettre du curé Puyot qui le priait, en termes pressants, de passer chez lui ce jour-là même sur les 6 heures du soir. C'est à peu près le moment qu'il sortit de chez M. Lescarra, et il eut beaucoup mieux resté seul à peser les choses qu'il avait entendues ou dites, mais cela ne s'étant point dégagé auprès de M. Puyot, il y monta. Le curé de Saint-Éloi-des-Mines habitait en haut de la ville un couvent devenu presbytère que ses prédécesseurs sans doute avaient pris garde d'entretenir, d'orner même, de ce confort décent qu'approuve l'Église. Lui le laissait fort délabré. On eût pu croire qu'il ne voyait là qu'une espèce de camp volant. Peut-être les soucis de son ministère lui cachaient-ils le monde extérieur, à moins que ce ne fût ceux de sa politique. Ce n'était pas un secret que M. Puyot avait des ambitions, mais lesquelles on savait au juste. L'épiscopat était bien haut pour ce bâtard d'une couturière épousée sur le tard, élevée par la bienfaisance ou la curiosité des châtelains de son village. Un siège de député semblait moins inaccessible, quoiqu'on ne fût pas beaucoup d'opinion dans le pays qu'un prêtre se mêlât de trop de choses en dehors de son église. De plus, M. Puyot était curé. Jadis, il avait enseigné l'histoire ecclésiastique au grand séminaire. Une maladie lui fit laisser sa chaire, non sans esprit de retour, mais trop longtemps hors de service, il la trouva occupée à titre à sa guérison. M. Puyot avait gardé de ses premiers travaux le goût de la parole et des études sociales. Il le satisfit autant qu'il put par un patronage des conférences dominicales où tous les prêtres du pays et certains orateurs laïcs étaient censés devoir prendre la parole, mais qu'à bien entendre les choses, il avait créé pour lui seul. Le père Nicole, invité à y faire quelques conférences, eut l'imprudence d'accepter. Dès qu'il eut préparé la première, il se vit remettre de dimanche en dimanche, compris et n'insista pas. La vieille Micheline vint lui ouvrir. Cette servante aux yeux caves, après avoir entretenu un quart de siècle chez plusieurs ecclésiastiques au désespoir et qui se la repassaient, une crasse et un désordre minutieux, s'était enfin fixée chez M. Puyot, où elle paraissait satisfaire. Sur le tard, elle fut par surcroît atteinte de manie biblique, comme si elle eût trop respiré l'ombre du temple calviniste qui dressait ses colonnes doriques dans le voisinage. « Le Seigneur a envoyé un de ses anges, » déclara-t-elle. « Ah ! Il y a du monde !» fit le jésuite, tout près déjà de s'esquiver. « Oh, alors, ce cas, je retourne. « Mais quoi, n'êtes-vous pas attendu? Entrez, mon père !» Le jésuite trouva M. Pillot avec un second prêtre dans son cabinet, haute pièce à trois fenêtres, dont le papier au bouquet pâli tombait en lambeaux. Des livres, des paperasses, d'innombrables brochures se chevauchaient sur des rayons, sur la cheminée, sur de grandes tables de travail, non sans encombrer un meuble Louis XIII à tapisserie pieuse. Deux lampes à abat-jour vert dorait ce désordre. Sur l'un de ces foyers, le profil grassement dessiné de M. Puyot se détachait en noir, ourlé d'une ligne lumineuse. De l'autre personnage, éclairé de face, on ne voyait d'abord que ses yeux perçants, une main courte et soignée où il appuyait son front. C'était M. d'Habitat, secrétaire particulier d'un des vicaires capitulaires. Il y en a deux dans ce diocèse qui abrita jadis Jean Sénius, l'un pour le Pays basque et l'autre pour le Béarn. C'est à ceux-ci, en l'absence d'évêque, dont on espérait vainement un depuis 4 ans, depuis la mort de sa seigneurie M. Cassoubiel, qu'avaient été délégués les pouvoirs de la crosse. Après les présentations, et non sans avoir débarrassé un fauteuil pour le nouveau venu, M. Puyot entama le dialogue à sa façon, qui était directe, sinon sincère, lui mettant un diplomate de type brutal. « Permettez-moi, mon père, dit-il, de vous demander des nouvelles de notre nouveau pénitent. » Si M. Puyot avait compté sur cette attaque pour troubler le jésuite, il fut déçu. « Oh, vous voulez sans doute, répondit celui-ci, parler de M. Lescara, à qui je viens en effet de rendre visite. M. Madelon, son médecin, ne se prononce pas encore. Mais vous n'êtes pas plus affirmatif à ce que je vois, mon père, et plaise au ciel que vous puissiez l'être davantage pour son âme. Mais M. Lescara a toujours eu le renom d'un homme de bien, fit le jésuite. « De bien et même de grand bien !» s'écria le curé, qui de ses dents inégales se mit à rire par âcres éclats. « Et, reprit-il d'un ton plus sérieux, vous avez sûrement été d'avis avant moi, mon père, qui n'est pas du tout indifférent aux mains de qui passera une telle fortune et partant une telle influence. « C'est que, insinua le jésuite, desquels je pourrais vous donner une vue exacte, si on songe... Mais justement, si on songe à des Pétrarques... Pardon, interrompit enfin le père Nicole, qui ne voulait pas se laisser compromettre, si peu que ce fût, et préférait avoir l'air de se méprendre. Monsieur Lesca est connu pour avoir fait le charme charité toute sa vie, sans attendre que nous la lui prêchions au lit de mort. Le curé, une seconde fois, changea de ton, et tout à coup devenu cordial. « Vous avez raison, père, dit-il, mais autre chose. Savez-vous que je devrais vous faire une scène pour venir jusque dans ma paroisse me cambrioler de mes pénitents ?»« Le père Nicole, reprit M. d'Habitant d'une voix lointaine, se souvient de l'écriture. Il vient comme un voleur. » Ah, mais qu'il me dépouille le plus qu'il pourra. Les âmes en sont ravies à trop bonne main, pour m'en plaindre aux voleurs, ni à personne. Le jésuite, soupçonnant à ce coup qu'il s'agissait de Madame Monésime, commença d'ouvrir l'oreille. Mais M. Puyot se tut comme s'il en avait assez dit. « Mon cher ami, intervint le secrétaire, vous feriez mieux d'en venir tout de suite à l'objet de notre réunion. Eh bien, voici la chose. M. d'Habitat est venu d'avant-garde, si je puis dire, m'avertir que M. le vicaire général a attendu d'un jour à l'autre, comme vous savez, pour la confirmation, a résolu en principe de la donner à Saint-Éloi. Il eût été naturel, observa M. d'Habitin, que M. Cassoubiel, étant doyen, et sa paroisse prééminente à Rimabourg, ce fut eux qu'honora de sa visite M. le vicaire général, mais il nous est revenu, et hic jac et lupus, que la vie privée de M. le curé doyen n'était pas exempte de suspicion. Oh, légère, sans doute, et mal fondée, mais un prêtre ne doit-il pas ressembler à la femme de César, si j'ose me servir d'une comparaison profane. Et à la veille, peut-être, de tant de responsabilités nouvelles qui sont près de retomber sur l'Église. Le père Nicole réfléchissait. Ben, « Vous me voyez deux fois surpris, dit-il enfin, d'abord de ce que vous me dites au sujet du respectable M. Cassouviel. En second lieu, que vous me le disiez. » « Bon, pensa M. Dubitin, il a dit respectable. L'affaire sera moins dure qu'on ne craignait. » Et tout haut, il ajouta, « Quant au premier point, vous ne devez pas encore avoir tout à fait oublié mon père, qu'il y a 3 ans, une nièce maternelle, que M. Cassoubiel défrayait chez lui, fort jolie personne, de 19 à 20 ans, disparue ex abrupto. » Mais n'est-elle pas tout simplement retournée chez son père, à Anglais? Et d'ailleurs, si on avait quelques craintes pour ses jours, il n'y a pas longtemps qu'elle est revenue à Rimabourg voir son oncle avec son mari, M. de Casalueño. Oui, un Espagnol qu'elle avait connu quand il prenait les eaux ici. Je ne vois là rien d'agrégatif, répartit le jésuite. Pour être nièce de curé doyen, on n'en a pas moins un cœur. Un cœur, s'écria doucement M. d'Habitin, et dans un presbytère, mais c'est de la morale d'exégète, cela, mon révérend père. Un cœur. J'ai bien dit un cœur. Ces enfants ne pouvaient se voir avec décence à cause, vous l'avez dit, du presbytère. Alors, la nièce de M. Cassoubiel est retournée chez son père à Aglin. Ce jeune homme et elle s'y sont mieux connus et se sont mariés. Je les crois heureux, c'est tout. Le curé se pinça les lèvres et M. d'Habitin, de sa voix lointaine. « À propos d'Anglais, demanda-t-il, n'est-ce point là que les filles de la Sainte Famille ont leur maison de retraite ?» Le jésuite est un tressaillement. « Et c'est bien ma sœur, riposta-t-il sans ferrailler, qui est malade, oui, depuis 5 ans. Oui, c'est ce dont je croyais me souvenir, car vous n'ignorez pas, mon père, que les saintes filles, dont le gouvernement a consacré les vertus en ne les obligeant pas encore à rentrer dans le siècle, dépendent de l'ordinaire. C'est ainsi que nous fûmes appelés, il y a 2 ans environ, quand ma sœur, sœur Marie de l'Espérance, impétera une prorogation de sa retraite qui doit être renouvelée bientôt, je crois. Et tout déplacement, continua le jésuite avec un peu de chaleur, serait la mort pour elle. Je vous rendrai même à ce sujet, monsieur le secrétaire particulier, toute votre bienveillance. Vous pouvez compter que nous ferons de notre mieux, répondit brièvement monsieur Dubitin. Mais pour en revenir à l'objet qui nous occupe, à tort ou à raison, il y a eu scandale encore que sur le tard, je le confesse, puisqu'il y a 3 mois, tout au plus, que la Corde de Toulouse a publié là-dessus son premier entrefilet. « Une famille, murmura le jésuite, qui presque aussitôt regretta d'avoir jugé aussi durement une chose où peut-être ses hôtes n'étaient pas du tout étrangers. Sans doute, monsieur, oui, monsieur Dhamitin, mais dans ces temps troublés, il faut prendre garde aux infamies. Celle-ci a couru tous les journaux, et le conseiller, entre autres. Ne vous étonnez pas si nous avons dû, en ces circonstances, envisager l'hypothèse d'un déplacement de monsieur Cassoubiel. Mais, dit le père Nicole, qui commençait à s'éclairer, le curé de Sainte-Marthe est inamovible. Sans doute, mais non pas plus que le concordat. En attendant, nous avons le droit de conseil et quelques autres moyens d'insinuation. D'abord, notre but n'est pas de mettre sur le pavé ce bon Cassoubiel, qui le reste a des moyens personnels. Et je ne serais pas surpris de le voir prêtre attaché à la cathédrale de Navarreinx, chanoine même, s'il venait doucement à récipiscence. Il y aura beaucoup à faire pour décider M. Cassoubiel à quitter une cure où il est aimé de tous. « Oh, j'ai ici les preuves, » répondit le secrétaire particulier, en frappant de la main sur quelques papiers à côté de lui, « que tout le monde n'en est pas aussi enchanté que vous dites. Les étrangers en particulier, ce troupeau d'âmes élégantes, se sont à plusieurs reprises plaints de le trouver un peu agreste. » Et vous savez peut-être, mon révérend, qu'on l'a surnommé le curé des pauvres. Je m'étonne qu'un pareil titre puisse être tenu à blâme. Eh, mon Dieu, mon père, nous ne sommes plus autant des saints, c'est d'hommes plutôt, pardonnez-moi, c'est l'opinion que nous avons besoin aujourd'hui. Et il lança à M. Puyot un regard de réconfort. Certes, accorda celui-ci. Mais ça n'en sera pas moins une succession bien lourde à certains égards. Oh, il ne faut pas non plus, reprit M. Dhamitin, sans exagérer le poids. S'il est vrai que le curé actuel de Sainte-Marthe a rencontré un accueil médiocre dans la clientèle étrangère, où il est accusé de manquer d'onction, de politesse peut-être, j'ajouterai que les vertus de miséricorde sont plus essentielles encore dans notre ministère. Or, M. Cassoubiel passe pour vindicatif. Oh, voilà de l'inattendu, dit le jésuite. Hélas, si je consentais à l'être moi-même, aurais-je mieux à faire là-dessus qu'à compter nos propres sans souvenirs. Car j'ai été vicaire autrefois de M. Cassoubiel, et que son caractère m'ait forcé à me séparer de lui, cela n'est rien. Mais je sais qu'il m'en garde encore rancune. M. Nicole se rappela soudain une obscure histoire de vicaire, jadis renvoyé par le curé de Sainte-Marthe. Il regrettait aujourd'hui de ne l'avoir jamais éclairci. « Reste toujours, dit-il, à faire que M. Cassoubiel quitte la place et que je vous sois à cela de quelque appui, ce qui est, je suppose... »« Distingo !» interrompit M. Dhamitin d'une voix retenue tout en reculant la lampe qui l'empêchait de bien voir le père Nicole. Quant au premier point, nous avons ce que j'appelais tout à l'heure les moyens d'insinuation. Ces écoles, par exemple, rouvertes sous les couleurs laïques par le zèle de M. Cassoubiel, si nous leur retirons notre appui, elles tomberont, et le gouvernement, au besoin, nous y aiderait. D'autre part, à défaut d'autorité directe sur lui, et d'une occasion de discipline que nul ne peut assurer qu'il ne nous donnera pas, nous avons la main sur ces vicaires, qu'il nous faudra, dans leur intérêt même, changer souvent au risque de lui rendre son ministère plus que pénible par l'accroissement du labeur, comme aussi par la présence de subordonnés peu sympathiques dont il se croirait sans cesse épié. Et enfin, rien ne prouve que nous ne serons pas obligés, au sujet de cette nièce dont il fut tout à l'heure question, d'ouvrir une enquête dont le moindre écho serait fâcheux pour M. le curé Saint-Loyen. Et satisfait d'avoir rejeté sur la préfecture les desseins de l'évêché, il conclut sur un ton plus sec. « Ne soyez pas étonné, mon père, de tant de jours que je vous s'ouvre d'un coup. Le fait est qu'il y a longtemps que nous débattons de ces choses à l'évêché, où nous espérions bien de n'être pas acculés à en décider spontenostra. » Ce gouvernement démoniaque et qui cherche à priver l'Église de ses organes vitaux, nous de notre pasteur légitime, custodes sine custodem, nous voilà, grâce à ces supports du Satan maçonnique, poussés dans l'impasse, au bord du fossé où l'ennemi se plaît, abyssus abyssum. Monsieur d'Habitat, qui nourrissait tous ses discours à bribes de latin, marquait à l'occasion, en ne les traduisant pas, qu'on était entre ecclésiastiques et entre pairs à son jugement. Après cet essor oratoire qu'il venait de fournir, il respira un peu et reprit plus modérément. Ou plutôt c'est monsieur Gassoubiel qu'on pousse et qui ne s'en aperçoit pas. Un ami sincère qui lui représenterait tout ceci obtiendrait qu'il se désistât, lui rendrait service. Et vous avez espéré, monsieur le secrétaire, que cet ami, ce serait moi? Oh, d'aucune façon, comme vous allez comprendre. Et c'est là le second point. Non, les services que vous pouvez rendre, monsieur Pillot, sont alors le plus élevé. J'y arrive, le terrain était en partie déblayé. Je suis venu ici, comme vous vous en rendez compte, pour faire une première enquête au sujet du changement qui nous occupe. Monsieur le vicaire est décidé à l'obtenir de monsieur Cassoubiel. Mais s'il est prévenu contre celui-ci, on ne peut dire d'autre part qu'il le soit beaucoup en faveur de monsieur Puyot ou de ses idées. Sa résolution dernière, il ne la prendra qu'à ribambourg. Et je sais qu'il compte beaucoup sur votre impartialité pour éclairer sa religion. Il vous appartenait donc au profit du bien général de l'incliner vers un ami de notre hôte. Voilà tout, dont on vous dira le nom, si vous le désirez, et que vous serez le premier alors à juger tout à fait digne de notre appui. Mais enfin, messieurs, dit le jésuite, vous n'oubliez qu'une chose en tout ceci, c'est que je suis avec M. Cassoubiel dans les meilleurs termes, et que je ne saurais faire contre lui ce qu'il ne ferait pas contre moi. Monsieur Puyot pouffa grossièrement. On voyait chez lui ressortir la couturière. « Nous y sommes, » dit-il. « Mon révérend, voulez-vous lire ceci ?» reprit le secrétaire en lui tendant une lettre ouverte. « Monsieur le vicaire m'a expressément donné l'ordre de vous la communiquer. » Le père Nicole lut ce qui suit. D.G. Monsieur le vicaire, je ne suis pas, comme trop peut-être de mes collègues, un familier de la dénonciation. Excusez-moi donc si je vais droit au but. Quand la Société de Jésus jugea opportun de paraître se dissoudre en France, c'est à ribambourg que le révérend père Nicole vint chercher un abri. Il me demanda à cette époque l'usage d'un confessionnal dans l'église Saint-Marthe, dont je suis le titulaire indigne, me laissant entendre qu'il craignait de se rouiller en interrompant un trop long temps l'exercice de son ministère, mais qu'à part cela, il ne se livrerait point dans ma paroisse à cette chasse aux pénitents, et surtout à la pénitente, qui rend le voisinage des bons pères si pénible parfois aux clergés séculiers qu'occupe de multiples devoirs en dehors de la seule confession. Tout d'abord, la conduite du père Nicole fut discrète, en effet, et je n'aurais eu qu'à me louer de sa présence s'il n'était tombé peu à peu où je craignais. Peu à peu, en effet, par des moyens sur lesquels je ne veux point m'étendre, son confessionnal fut assailli par les pénitentes de tout ordre, dont sa réserve apparente, le dédain même qu'il en feignait de faire, ne faisait qu'exciter l'ardeur. Du reste, le père Nicole ne laisse pas d'aller dans le monde, assiste à des garden parties, à des lawn tennis, à des thés et autres divertissements profanes, où il lui est facile de pécher à l'âme. Dernièrement pourtant, ses manœuvres au comble, il est parvenu à détacher de ma tutelle religieuse une des dames les plus considérables et les plus considérées de ribambourg, aussi distinguée par son intelligence et, dit-on, par sa beauté, qu'elle l'était naguère encore par sa dévotion éclairée. Certes, je n'aurais rien dit à monsieur le vicaire si cette sainte et lointaine liaison, qui seule doit exister entre le confesseur et la pécheresse, n'était, je le crains, près de se transformer entre eux, et peut-être sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Avant que le mal ne devienne plus profond et ne tourne au scandale, comme l'a, paraît-il, redouté à plusieurs reprises du même prêtre, je ne crois pas sortir de l'humilité qui me convient à tant d'égards, en vous faisant observer, monsieur le vicaire, qu'il vous appartient d'user de votre haute influence auprès du révérend père provincial, afin qu'il impose au père Nicole un changement de résidence, qui serait, je l'ose dire, un grand soulagement pour moi, comme pour ma paroisse, inquiète et désorientée de ses plus naturelles déférences. J'ajouterai qu'il règne, malgré des apparences de froideur, une intimité singulière entre cet ecclésiastique et le desservant de Saint-Éloi-des-Mines, M. Puyot, dont les opinions socialistes et, pis que cela, philosophiques, ne sont inconnues de personne dans le diocèse, et s'était déjà si bien fait jour au grand séminaire qu'il n'y put continuer à professer. Son patronage des conférences du dimanche, où M. Pillot ne prêche pas moins qu'un calvinisme, voire même qu'un socialisme, assez découvert a déjà, j'en suis sûr, éveillé les jésuites méfiance de l'évêché. En attendant la solution que j'attends de votre esprit de justice bien connu, je suis monsieur le vicaire, etc., etc., Cassoubiel, prêtre curé de Sainte-Marthe à Ribamour. Mais monsieur Cassoubiel est fou, observa le père Nicole. Il ne sait donc rien des personnages qu'il attaque, ni de leur liaison. Vous voyez, mon père, reprit monsieur Pillot, qu'il nous faudra changer votre gratitude en miséricorde. Quant à moi, ne pensez pas non plus que j'apporte à tout ceci de la rancune ou une basse ambition. Mais laissez-moi vous découvrir à fond tout ce que je prétends. Mon apologie viendra ensuite. Vous êtes un peu indigné contre moi, je le sens, et ne vous demande que de ne pas vous prononcer d'avance. J'ai toujours désiré de compter M. Lescarat parmi mes ouailles effectives. Le malheur est que l'onagre ne cacha jamais une espèce d'éloignement que je lui inspire pour me laisser quelque espoir. J'en avais si peu que je n'hésitais pas à le contrecarrer au conseil des parts prenants et n'éprouvais que peu de jalousie quand je connus votre liaison. Elle date déjà, si je ne me trompe, et M. Lescarat serait allé l'année dernière, deux ou trois fois chez vous. C'est vrai, dit le jésuite. Vous-même l'avez visité, voilà 6 mois, à plusieurs reprises, chez Madame de Charite, où vos tête-à-tête ont été remarqués. Le père Nicole ne put s'empêcher de sourire. Quelle police, remarqua-t-il. Et l'on nous accuse. J'aurais donc pu, continua le curé, vous entreprendre bien plus tôt, mais rien n'était assuré encore de M. Lescarat, qui, vous le savez, a été jadis libéral, c'est-à-dire irreligieux. C'eût été me faire un confident inutile. Hier, enfin, j'appris, ou peu importe comment, que vous étiez appelé auprès de lui. C'est pourquoi je vous ai demandé une entrevue. Je suis assuré de votre grande influence sur M. Lescarat, et pour tout dire d'un coup, voici ce que je désire que vous obteniez de lui. M. Puyot s'interrompit un instant, étonné peut-être lui-même de ce qu'il allait dire, et soudain sautant le pas, « Il faudrait, acheta-t-il très vite, d'abord que l'onagre écrive en faveur de mon ami au culte, où il y a des influences, et enfin, qui nous lègue 1 million, ou un peu plus, pour fonder une caisse de politique sociale. » Le père Nicole jeta sur M. Pillot les mêmes yeux dont on regarde un fou, mais de son lointain fauteuil, le sous-secrétaire assura avec douceur « Oh, tout ceci est fort sérieux. » « En ce cas, répondit le jésuite, dispensez-moi de continuer un débat inutile. Mais je le croirais à la longue dans un roman feuilleton, les captations de Loyola ou la résurrection de Rodin. Monsieur Pillot eut un geste déprécatoire. Je vous en prie, dit-il, un moment encore, et puis vous raillerez tout votre sou. Cette somme vous paraît immense, mais la fortune de Monsieur Lescar ne l'est-elle pas? Croyez qu'elle dépasse 20 millions, 30 peut-être. Cela n'est point connu, ni que, voilà 2 ou 3 ans, Monsieur Lescar a presque triplé son bien par des affaires de pétrole dont le sieur Etchepalao a su profiter à la queue. Monsieur le curé, vous me ferez tourner la tête. Bon, je la connais, elle braverait Galilée lui-même. Elle me donnera raison, malgré tout. D'un air résigné, le jésuite décroisa ses longues jambes. Il est clair, reprit le curé de Sainte-Marthe, que si j'avais la grossière ambition d'être député à mon seul bénéfice, il serait inutile que je vous dérange. Mais ne me jugez pas d'après cette réputation de roublard que je traîne après moi, et le grand malheur de n'être, fût-ce aussi peu que rien, de n'être pas né. Ce que je traînerai surtout toute ma vie après moi, c'est mon air et mes manières comme un manteau sale. Mais n'importe. Et vous admettez sans doute, mon père, que l'Église, ou plus simplement le clergé, a droit à une plus grande place que nous en laisse dans les conseils de la nation. Nous l'admettons tous, reconnut le jésuite, et M. d'Habitin, plus mollement. Sans doute, dit-il, oh, c'est le véritable idéal républicain. Or, les conservateurs laïcs que nous ferions élire une fois au pouvoir ne déliraient pas une seule des lois qui nous étranglent. J'en conclus que le clergé doit mettre la main à la pâte et les curés, comme on disait en 89, entrer eux-mêmes à la chambre. Je tâcherai aux élections prochaines d'en pousser un, c'est moi. À chacun sa tâche et son canton. Et si je sacrifie peut-être à ce siège l'espoir d'un siège plus haut, au moins faut-il que M. Cassoumiel nous laisse la place. Sa succession entre les mains d'une personne sûre et sachant manier l'électeur, de mon ami, enfin, c'est la moitié du succès pour moi. Et son impunité me répond de son zèle. Ne serait-il pas amovible? En cas de séparation, il le sera encore vis-à-vis de l'évêché. Mais vous êtes en train de nous démontrer qu'on n'est jamais inamovible, remarque le père Nicole. Mon ami n'est pas M. Cassoumiel, et en tout cas, si sa cure soutient mon élection, la réciproque n'est pas moins vraie. En cela, l'appui de M. Lescar au culte et le vôtre auprès de M. le vicaire me seront d'un puissant secours. Y puis-je compter? Oh, c'est allé un peu vite, dit le jésuite. Suffit que vous ne disiez plus non, absolument. Je passe au terrible million et demi, qui serait le noyau d'un fonds politique dont on ne toucherait que les revenus. L'argent dont notre parti, les 3/4 de la France, ne manque point, mais ne dépense pas, est si essentiel que nos adversaires sont en train de créer, grâce à leurs comités pseudo-commerciaux ou autres, une caisse de réserve qui finira par les mettre hors d'atteinte. « Je ne dis pas non, en théorie, répondit le père Nicole, mais à part même ce qu'on pourrait appeler votre mégalomanie financière, vous reconnaissez, n'est-ce pas, que M. Lescar ne vous aime pas exagérément. Il ne peut pas me souffrir. Mais mon père ne lui parlait pas de moi, ou peu. Que l'argent soit entre vos mains et de 2 ou 3 personnes sûres, M. Descoucazeau, M. de Ribes ou autre. Je suis assuré de votre appui, comme de la somme nécessaire à mon élection. Et moi, à la Chambre, c'est alors que commencera notre véritable besogne à Ribabourg, direction des âmes, qu'on ne vous dira plus des parprenants, mal pensants, que j'ai déjà un peu mis en branle, mon patronage enfin devenu le vôtre. « Ah, ça, c'est ma part, dit le jésuite. Mon père, c'est votre part de travail et de déboire. Est-ce donc pour nous que nous travaillons? Monsieur d'Habitat a paru tout à l'heure essayer sur vous, qu'il me pardonne de le dire, un marchandage où je ne le suivrai point. Autant qu'il tiendra à moi, mon père, et quelque parti que vous choisissiez, personne ne sera inquiété qui vous touche. Et je vous dis simplement, travaillons ensemble, chacun dans son champ, travaillons à rétablir l'esprit de l'Église et son antique pouvoir. La société nous échappe, ainsi qu'à ses véritables lois. Mêlons-nous à ses travaux, forçons-la à nous entendre. Elle se dérobe, elle doute, mais crayons-la, contraignons-la d'être persuadée. Monsieur Puyot se tut. Peut-être, dit enfin le jésuite. Et le pouvoir, c'est bien quelque chose. Mais votre triomphe ne fut jamais plus loin. Que serait-il d'ailleurs, sans les cœurs et les consciences? Et ne sommes-nous point semblables à des enfants qui, ayant perdu la clé d'une horloge, sont contents d'en faire marcher les aiguilles avec le doigt? Sur ces mots, l'entretien prit fin, laissant le jésuite irrésolu.